Bonsoir à tout le monde. Donc, on va reprendre notre étude biblique sur Proverbe et on va traiter le dernier chapitre finalement de Proverbe. Donc, Proverbe 31, qui est connu comme étant le proverbe à propos de la femme vertueuse. Et en même temps, ça ne parle pas que de ça. Et puis, nous allons comment dire, donner une. On va évidemment traiter le chapitre, on va traiter cela, mais on va aller dans une espèce d'optique qui serait. Une conclusion au livre des Proverbes, ce que n'est pas forcément, absolument et définitivement la fin de ce livre, vu que c'est un recueil avec plusieurs auteurs, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Et voilà, et donc dire que Proverbe 31, c'est une conclusion à Proverbe, pas forcément exactement, mais on va essayer d'en faire une conclusion en rebondissant sur d'autres choses. Donc la première chose, Proverbe 31, en fait on va lire le début, parce que souvent donc, effectivement on parle de Proverbe 31, la femme vertueuse, voilà c'est le sujet du chapitre et c'est vrai que c'est ce qui prend la plus grosse partie. Néanmoins le début parle un petit peu d'autre chose et on va commencer par là et puis on va aller plus loin. Donc il est dit au verset 1, parole de Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta figure aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Donc on s'arrête là, les 9 premiers versets, ce n'est pas la femme vertueuse. C'est à propos, c'est juste, on va dire, deux conseils au roi Lémuel, donc apparemment donnés par sa mère et c'est lui qui les écrit. Et c'est lui qui a apparemment écrit tout le chapitre. Et ce qui est intéressant dans ces quelques versets, donc ça s'adresse à un roi, mais je me suis dit, en fait, si ce sont des conseils, on va dire, exclusivement pour un roi, ben, vous et moi, nous ne sommes pas des rois, donc on peut ne pas se sentir concerné et dire, bon, ben, très bien, c'est un truc, je ne sais pas, pour les quelques rois qui ont été en Israël à une époque, un conseil pour les rois des autres nations pour l'avenir, ou je ne sais pas. Et en fait, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut plutôt voir ça effectivement pour nous et se dire que quelque part, le roi, d'une certaine manière, nous sommes le roi de notre vie. Voilà. Nous sommes le roi de notre vie. Et ici, il n'y a pas 50 conseils. Il n'y en a pas. Ce n'est vraiment pas un grand plaidoyer, un grand traité de doctrine. C'est très court. En fait, il n'y en a que deux. Il y a un avertissement qui est de faire attention aux femmes qui pourraient avoir une mauvaise influence pour le roi, mais sous-entendu par là, attention en fait à la polygamie. C'est un peu ça en fait l'idée. C'est ne livre pas ta vigueur aux femmes. Pas à la femme qui a tel ou tel caractère, aux femmes. Donc déjà, ça sous-entend non seulement qu'elle a un caractère qui n'est pas forcément à rechercher, mais en plus, c'est aux femmes. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas chercher une femme, tu vas en chercher plusieurs. Et ça t'est déconseillé. C'est une première chose. Donc ça qui est forcément peut être plus cadré pour le roi, pour les rois en vrai, mais qui est forcément valable également pour nous, puisque ben, la polygamie n'est pas. Et pas franchement une valeur qui sort du cœur de Dieu. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il est parlé en fait de consommation d'alcool, de boire du vin, de boire des liqueurs fortes, etc., etc. Et la chose qui est dite là-dedans, alors d'abord, ça parle effectivement déjà une de tous les alcools, ça ne parle pas forcément que du vin, puisqu'il est parlé également de liqueurs fortes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle il ne faut pas aller avec plusieurs femmes, et notamment des femmes d'un certain caractère, c'est qu'elles vont égarer le roi. Et ici, il y a une autre explication qui est donnée par rapport aux alcools, Et elle est très belle, en fait, cette explication-là. Il est dit, donc, ce n'est pas au roi Lemuel de boire du vin, ni au prince, donc, vous voyez, il élargit là, le sujet, de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse le droit de tous les malheureux. Donc, en fait, là-dedans, il y a juste deux explications. Une, c'est d'oublier finalement quelle est la pensée de Dieu, d'oublier quelle est la volonté de Dieu, et notamment dans un domaine tout particulier, qui est de défendre le faible. Qui est de défendre le faible. On va dire, autrement, on va dire de penser à autrui, de penser à celui qui est dans le besoin, de penser à celui qui, quelque part, pourrait avoir besoin de moi. Voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle il est dit ne pas boire d'alcool, en fait. Parce que sinon, évidemment, il va y avoir l'ivresse. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, ça signifie que, comment dire, des fois, enfin, les gens, dans des discussions par rapport à l'alcool, ils vont dire, mais à quel moment je suis sous? Ou alors, comment dire, l'État, le gouvernement, alors dans un pays comme le nôtre, mais, ou d'autres, on s'en fiche, ils vont forcément mettre une règle ou un standard qui va déterminer qu'au-delà de tant de verres de telle ou telle boisson, vous êtes plus apte à conduire ou enfin voilà, vous êtes plus dans votre état normal. Et c'est intéressant parce qu'en fin de compte, le curseur que Dieu met par rapport à l'alcool, c'est pas un verre, deux verres, trois verres, dix verres, c'est pas quand tu roules sous la table. Ce n'est pas quand tu peux plus conduire ta voiture sans mettre les autres en danger. Enfin, là, en l'occurrence, ça serait conduire sans cheval. Mais bon, peut-être que le cheval, remarquez, il vous ferait dessouler un peu rapidement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Non, non, ici, le standard, c'est quoi? C'est tu oublies la volonté de Dieu et tu oublies le droit des malheureux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le standard, c'est que comment dire, tu ne. Alors, on va le lire, en fait, c'est le verset 8. 8, exactement. C'est celui-là qui nous donne une explication plus globale, mais très intéressante. Il est dit, donc, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux. Non, je me trompe. Oui, enfin, d'accord, bon, c'est pas grave, on l'a vu avant. Mais la chose est celle-ci, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que c'est être sous devant Dieu et donc, on va dire, être dans un état où ben, on peut estimer que nous sommes dans le péché, dans la chair, etc. C'est quand, en fait, je ne suis plus en capacité complète de contrôler mes choix et mes pensées. C'est ça, être sous. Et du coup, je dirais que quelque part, on peut être sous d'autres choses. On peut être sous d'autres choses que de l'alcool. Du coup, effectivement, comme les versets précédents, on peut être sous par rapport aux femmes. Ou une femme, ça peut être pareil d'ailleurs. Elle peut être sous, entre guillemets, dans ce sens de ne plus être maître d'elle-même et donc d'oublier ce que sont, on va dire, peut-être ses impératifs, ce qu'elle a à faire, ou il ou elle a à faire dans sa vie. Et ce qu'est la volonté de Dieu. Et donc tout ça peut être, c'est donc, on va appeler ça donc effectivement le fait d'être sous, mais c'est surtout le fait de ne plus être en contrôle total. Et plus être en contrôle total fait qu'il va y avoir des innocents qui vont, comment dire, en pâtir. C'est ce qu'on voit ici dans ce qui est écrit là. Et nous, on se retrouve à être éloignés et à ne plus savoir quelle est la volonté de Dieu ou qu'est-ce qui est bien devant Dieu finalement, en fait? Pourquoi? Parce que, alors là, en l'occurrence, on a ingurgité un produit, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres types de produits, d'ailleurs, déjà, pour commencer. Et puis, ça peut être peut-être des relations qui font que mon jugement est faussé vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de moi-même et de ce que je dois vivre, en fait. Mon jugement est faussé à cause d'un produit extérieur ou à cause d'une relation. Ou peut-être, vous savez, une chose aussi qui peut nous amener dans la même situation, ça peut être peut-être une situation. Une situation comment dire, que moi, je n'aborde pas peut-être avec la pensée de Dieu. Et du coup, je suis dans cette situation, entre guillemets, d'ivresse négative, qui est Je ne sais plus quoi penser là-dedans, je ne sais plus quel est le bon jugement et je ne sais plus qu'est-ce que Dieu veut que je fasse là-dedans. Alors qu'en fait, la question est celle-ci, c'est qu'est-ce que Dieu veut que, ou du moins, quelle est l'attitude que Dieu veut que j'aie là-dedans. Et un dernier petit point à relever sur le roi, le prince, l'alcool, les femmes, etc., et la polygamie, c'est que ce qui semble être demandé ou sous-entendu que c'est demandé de la part de Dieu au roi, et donc à nous comme étant le roi de notre vie, c'est de se préoccuper des autres. Parce que là, on voit que ça concerne beaucoup les autres quand même, les avertissements. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est intéressante. Deuxième chose qui est intéressante, on va voir alors, je ne vais pas tout vous lire la suite du chapitre. D'abord parce qu'il y a des parties qui me paraissent, non pas ne pas avoir d'intérêt, mais je vais quelque part, les synthétiser et donner un sens un peu rapide. Et puis des choses qui ont peut-être, comment dire, qui sont peut-être parlants dans le contexte de l'époque. Mais pas parlant pour nous. Je veux dire, voilà, vous aujourd'hui, vous protégez pas votre maison de la neige avec des tapis ou je sais pas quoi. Donc, ben voilà, ça veut pas forcément dire grand-chose pour nous. Mais il y a autre chose en substance à relever. Et donc, ce qui est par rapport à la femme vertueuse, on va lire quand même un petit peu au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. Elle fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et puis ensuite, il y a une longue description, enfin longue relativement, on va dire, de tout ce qu'elle fait en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que tout ce qu'elle fait là, on ne va pas se l'appliquer. Vous n'allez pas vous, mesdames, vous l'appliquez stricto sensus à aujourd'hui parce que ça n'a pas beaucoup de sens au premier degré, si vous voulez. Par contre, ce qu'on peut en relever, il y a deux choses de tout ce qu'elle fait. Un, c'est qu'elle n'est pas fainéante et c'est réitéré plus tard. Et deuxièmement, il y a le fait qu'elle ne soit pas fainéante a un rapport avec quelque chose qui est encore une fois les autres. Au verset 20, il est dit, elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Donc, d'un côté, il est décrit une femme qui, on va dire, qui travaille, qui fait des choses, qui n'est pas fainéante, qui, la manière dont c'est décrit, qui semblerait se lèverait la nuit pour faire des choses, enfin bref, etc., etc. Une femme qui a aussi une certaine autonomie, même financière, puisqu'apparemment, elle fait, dans une certaine mesure, du commerce, puisqu'elle vend des choses, etc., pour le foyer, pas juste pour elle, etc., etc. Donc, on voit cette femme-là, et en même temps, c'est mis en rapport et c'est mis dans le, en tout cas, et noyé là au milieu, le fait qu'elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. C'est-à-dire que finalement, toute cette débauche d'énergie, je veux dire, ces efforts positifs, c'est pas juste pour elle ou pour s'enrichir. C'est aussi pour aider des gens qui ont le besoin. Alors, ce n'est pas que pour elle, parce que déjà, c'est pour sa famille, mais c'est aussi encore pour des gens à l'extérieur qui ont un besoin. C'est ce que l'on voit ici. Ensuite, il dit au verset 25, elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alors, juste des petits commentaires avant ça. Ce que je vous ai dit au début, donc, qui peut trouver une femme vertueuse, et dans ce qui est écrit ensuite, dans la suite, c'est intéressant. Ça veut dire que, comme on dit vulgairement, enfin, vulgairement, ou en tout cas de manière très commune dans une expression française, on ne la trouve pas forcément sous le sabot d'un cheval. Hein? Ce n'est pas forcément fréquent. Donc, ce qui veut dire, ce qui sous-entend quoi, c'est qu'une femme vertueuse, ce n'est pas naturel. Mais je dirais que ce qu'on a lu au début sur le roi, c'est peut-être pas naturel non plus de se garder du vin et des femmes. Donc ce n'est pas naturel. Deuxième chose, la description qu'on voit sur ces 21 versets de la femme vertueuse, on pourrait dire, bon ben en fait elle est parfaite, je suis une femme, c'est pas moi, bon ben c'est bien, on va tourner la page, on va lire autre chose, hein. On va lire autre chose, c'est bon, j'ai compris. Non, je pense que ici comme ailleurs dans la Bible, Dieu souvent nous présente un idéal. Un idéal que nous ne vivons pas parfaitement, un idéal vers lequel nous devons certes tendre dans une certaine mesure, et un idéal qui en fait nous donne une direction plutôt qu'un objectif à atteindre absolument et dans ce temps-là. Et chose aussi qu'on peut voir en lisant tout ce qui est dit sur cette femme, on dirait que cette femme-là, elle a que des qualités, elle a aucun problème et elle s'inquiète de rien. Exactement ce que nous sommes, quoi, en fait. Hein? Donc je plaisante un peu. Mais non, je pense qu'effectivement, ça décrit la femme, mais je dirais la femme comme Dieu souhaite quelque part. Et pourquoi je dis comme Dieu souhaite? Parce que une chose qui est dit à la fin du chapitre, mais qui est aussi sous-jacent dans tous les, enfin, dans l'ensemble des 21 versets que l'on peut lire, c'est que la qualité de cette femme, c'est comme le titre l'indique et comme on le dit en général, c'est qu'elle est vertueuse. Sa qualité, première en tout cas, c'est pas la beauté. Et nous sommes dans un monde qui, avec des critères différents selon les époques, selon les cultures, selon les âges, selon tout ce que vous voulez, propose aux femmes une qualité première qui va être autre chose que des vertus. Il va leur proposer d'être belle. Il faut être belle. Donc voilà. Donc après, il y a plein de choses pour ça, des choses acceptables, des choses moins acceptables, des choses qui ont vraiment aucun intérêt, etc., etc. Mais la chose qui est importante, ça veut dire qu'une femme chrétienne, croyante, doit se dire que, ok, l'objectif c'est pas d'être moche, je veux dire. L'objectif c'est pas non plus que mon mari me trouve pas belle, quoi, je veux dire. Donc, je ne vais pas m'habiller avec des sacs de pommes de terre et, par exemple, absolument pas mettre un petit coup de maquillage si ça peut être bien. Voilà. Mais on s'en fout. Mais ou mettre ou pas mettre. Mais je veux dire, en tout cas, on va prendre soin de soi quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que comprendre que c'est pas l'élément numéro un, ça. Le monde veut nous veut vous plutôt projeter cela. Tout comme je dirais pour un homme, elle va dire voilà, un homme, bon, ben, il faut quand même qu'il soit svelte, musclé. Bon, après, si grand, c'est bien. Bon, ben, s'il n'est pas grand, ben, ça ne peut pas faire grand-chose. Il va pas mettre des talonnettes. Hein, ou même s'il est aimé, en tout cas, ça ne va pas le grandir. Si ce n'est que virtuellement pendant un temps. Etc. Mais là, c'est pareil. Les hommes, je veux dire. Où est-ce que c'est marqué qu'un homme, il ne faut pas qu'il ait un petit peu un petit bidon? Où est-ce que c'est marqué qu'un homme, il faut absolument qu'il soit très musclé, qu'il fasse des heures et des heures de sport? Où est-ce que c'est marqué ça? Nulle part. Moi, je vous le conseille. Pourquoi? Pour la santé. Je vous le conseille parce que vous serez mieux dans votre corps, mais pas pour une question d'esthétisme et de plaire et de ceci et de cela. Mais par contre, cette société-là, veut montrer des gens qui sont beaux en opposition à des gens qui sont pas beaux. Et nous, on ne doit pas avoir ce regard-là, en fait, que ce soit sur l'homme ou que ce soit sur la femme. Donc, revenons rapidement sur la vertu. Et sur la vertu, ben, les vertus qu'on voit ici, c'est une, c'est qu'elle est vaillante, elle est le contraire de feignante, en tout cas. On voit que c'est une personne en qui on peut faire confiance. Donc, ça veut dire que dans sa manière de vivre, de se comporter, de parler, etc. Ça amène la personne en face d'elle, là en l'occurrence son mari, mais je le dirais de manière plus large, à avoir confiance. Hein? Donc ça, c'est une vertu, on va dire, à développer et à rechercher. Une autre vertu, c'est d'être dans une certaine mesure généreux et altruiste. C'est ce qu'on a vu avec le verset 20, elle tend la main aux malheureux, oui, aux malheureux, et elle tend la main à l'indigent. Et puis une autre vertu qui vient aussi, alors aussi une vertu qui est sous-jacente dans le fait qu'elle gère en partie l'argent, enfin l'argent, ou en tout cas elle a une part de liberté économique, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre-là, c'est que du coup ça veut dire qu'elle est responsable aussi. Elle est responsable. Responsable, ça ne veut pas forcément dire être, comment dire, indépendant, mais elle est responsable. Elle est responsable de ses actes, elle est responsable de ses choix, elle est responsable par rapport aux autres. Et puis, ce que l'on a encore ici qui apparaît devant nous et qui est assez intéressant, c'est qu'au verset 25, elle est revêtue de force et de gloire et elle vit, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc, deux choses. Une, elle sourit de l'avenir. Et deux, elle a des paroles qui sont des paroles de sagesse. Et moi, je vais juste vous lire certains de ces versets-là dans d'autres versions, parce que j'ai trouvé que c'était voilà, assez intéressant de voir ça. En Darby, par exemple, il est dit, elle se rit de l'avenir, il est traduit autrement, il est dit, elle se rit du jour à venir. Et deux autres versions disent, elle rira au dernier jour, ou elle rit du dernier jour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces différentes versions nous amènent une vision un tout petit peu plus large que de se rire de l'avenir. Ça signifie qu'elle se rit de l'avenir de manière générale, oui. Dans le sens qu'elle est confiante, mais ça veut dire qu'elle est aussi dans une attitude, on va dire, sereine par rapport à demain, le jour de demain, là, qui va venir demain, et elle est sereine et confiante par rapport, je dirais, à la fin des choses. Parce que quand il est dit ici, elle se rit du dernier jour, la fin des choses, comment les choses vont finir? Eh bien, je suis confiant, je suis serein. Comment ma vie va finir? Je vais vous dire, elle ne va pas bien finir, ma vie. Elle ne va pas bien finir. Parce qu'à la fin, comme je l'ai lu dans un livre dernièrement, enfin, je ne sais pas si c'est amusant, mais bon, en tout cas, c'est vrai, la vie est un livre dans lequel le héros meurt toujours à la fin. La vie est un livre dans lequel le héros meurt toujours à la fin. Eh bien oui, c'est vrai. Le héros, il va toujours mourir à la fin. Donc, la fin, elle n'a pas forcément de raison objective. Enfin, comment dire? Raison objective. Je dirais plutôt de raison subjective dans ce temps-ci d'être confiante ou positive. Parce que le héros, il va mourir à la fin. Le héros que nous sommes, nous, là, dans ce temps-là, il va mourir à la fin. Mais en même temps, il ne va pas mourir. Puisque celui qui meurt, qui croit en moi, ne meurt pas. Il va ressusciter et il y a un après. Mais je veux dire, dans la vision juste de ce monde, de ce temps, de cette vie parcellaire qui nous est donnée pendant quelques années, oui, la fin calculée ici-bas, ça va finir mal, ça va se gâter. Voilà, on va être malade, on va être vieux, on va être moins bien, on va être plus faible, on va dépendre des autres, on va avoir des sujets supplémentaires de s'inquiéter, etc. Oui, mais il y a une vertu que je dois développer en Dieu, là en l'occurrence c'est conseillé pour les femmes, peut-être parce qu'elles sont plus attachées aux détails et à s'inquiéter peut-être du coup par conséquent à l'avenir, mais c'est pas pour ça que les hommes ne s'inquiètent pas de l'avenir, mais peut-être qu'ils s'en inquiètent différemment. Donc du coup, c'est quand même valable pour les deux. Mais voilà, elle se rit de l'avenir dans ce sens-là. Elle se rit du jour de demain, mais elle se rit de la fin des événements et elle se rit de la fin ultime de sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie, elle est dans les mains de Dieu et qu'il contrôle tout, qu'il sait ce qu'il fait et que d'une certaine manière, du point de vue de Dieu, tout ira bien et tout finira bien. Pourtant, ce que je vais expérimenter n'ira pas forcément bien, et même probablement que ça n'ira pas bien, et finira mal. Parce qu'à un moment donné, je vais être malade, ou ceci, ou handicapé, ou vieillir, ou ceci, cela, et ça finira, comme on dit, par un cercueil, par une boîte. Et ça, on le sait à l'avance, sauf si on est enlevé. Mais voilà, on va dire le sort général de l'être humain est celui-ci. Au verset. Le son, on s'en fiche. Oui, d'accord. Au verset 26, il est dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Et en Darby, il est dit, il est traduit, c'est intéressant, il est traduit différemment comment dire, les instructions aimables. C'est traduit autrement, il est dit, la loi de la bonté. La loi de la bonté. Donc, c'est quoi avoir des paroles de sagesse? C'est avoir dans la bouche, c'est pas forcément avoir un don de sagesse qui fait que je suis plus sage que etc. C'est avoir dans la bouche la loi de la bonté. Par exemple, l'évangile, c'est la loi de la bonté. La grâce de Dieu, c'est la loi de la bonté. Les paroles qui sont les pensées de Dieu, bien comprises, c'est la loi de la bonté. Mais il y a aussi une chose, ça veut dire la loi de la bonté, c'est-à-dire qu'il y a la bonté dans la loi. Alors que dans la loi, on va dire juste écrit noir sur blanc, il n'y a pas que la bonté, il y a le jugement aussi. Mais comme le jugement a eu lieu, nous avons la loi de la bonté. Et ça aussi, c'est une vertu à développer, à chérir et à garder, que ce qui sort de notre bouche est la loi de la bonté. Ma vision de l'avenir de demain, de dans un an et de la fin de ma vie, c'est je me ris de l'avenir parce que c'est dans les mains de Dieu et j'ai une forme de confiance. Et puis, on va voir, voilà, verset 30, il est dit, on ne va pas aller beaucoup plus loin, on va aller rebondir ailleurs, la grâce est trompeuse, donc la grâce dans le sens de la beauté en fait. Mais c'est un peu synonyme. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et là, il y a deux choses intéressantes. Une, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vertu numéro un, ce n'est pas la beauté, parce que c'est vain, ce n'est pas primordial et ça va passer de toute manière. Hein? C'est vain, ce n'est pas primordial et de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ça va passer. Que ce soit par la maladie, les accidents, la vieillesse, et puis de toute façon, au ciel, nous serons autres. Et donc l'autre chose, il dit, donc ce qui est important, c'est la femme qui craint l'Éternel, et c'est elle qui sera louée. Et là aussi, une chose intéressante, celle qui craint l'Éternel, ou celle qui, voilà, qui aime Dieu, quoi, on va dire ça comme ça, ou qui adore Dieu, c'est elle qui sera louée. Mais elle sera louée par qui? Elle peut être effectivement, dans le contexte ici, louée par les gens, parce qu'elle a une bonne attitude, mais si elle craint l'Éternel, en fait, elle sera louée par Dieu. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose qui est peut-être plus attaché aux femmes qu'aux hommes, mais il y en a pour les deux, mais peut-être plus pour les femmes, c'est vrai. Ça s'appelle un peu la jalousie. La jalousie. L'autre, elle est plus belle que moi, l'autre, elle a plus que moi, l'autre, ceci, cela, etc. Bon, les hommes, c'est pareil, un peu sur d'autres choses, c'est peut-être un peu moins aigu. C'est comme la beauté, c'est pareil. Un homme, je veux dire, il ne cherche pas à être laid, mais faites un reproche sur le physique à une femme et faites un reproche sur son physique à un homme, vous allez voir la différence de réaction et de dégâts. Pourtant, les deux n'apprécient pas, hein. Je veux dire, moi, si vous me dites, j'ai un nez tordu, ou je ne sais pas quoi, ou autre chose, où je suis un serpent de miettes, ça ne me fait pas forcément plaisir, mais je vais vivre avec. Dites à une femme, même un petit détail sur son aspect physique, vrai ou pas vrai, ça a tendance à faire plus de dégâts parce que voilà, on n'est pas constitué de la même manière. Et donc, ici, celle qui craint l'Éternel, elle sera louée, mais vous savez quoi, c'est ça ce qui est important aussi bien pour l'homme que pour la femme. Elle sera louée par l'Éternel. Elle sera louée par l'Éternel. Et nous sommes appelés à vivre devant l'Éternel. Pas à être dans un système de comparaison qui amène la jalousie, qui amène peut-être de la déception par rapport au fait qu'on ne reconnaît pas ce que je fais ou je n'en sais trop rien, qui amène aussi le fait que je vais donner beaucoup trop d'importance aux paroles des autres. Les paroles des uns et des autres. Je dirais, je choisis de qui viennent les paroles pour y donner du poids. Et celui de qui viennent des paroles qui ont toujours du poids et toujours plus de poids, c'est Dieu. Mais après, au niveau des individus, c'est moi qui décide à qui je donne. Je décide que c'est moi qui décide de qui. J'estime que les paroles ont du poids. Et cette estimation-là, souvent, elle n'est pas bonne. Je vais m'attacher ou je vais m'arrêter sur les paroles de telle personne. En fait, ça n'a aucun intérêt. Cette personne-là, tu sais à l'avance qu'elle, tu sais, elle dit n'importe quoi. Cette personne-là, tu sais qu'elle est charnelle. Cette personne-là, elle n'est même pas croyante. Elle n'a aucune connexion avec Dieu. Donc, elle ne va pas dire grand-chose qui va venir du trône de Dieu, etc. Donc, ça, j'estime que ça n'a aucun poids. Par contre, ce que dit Dieu, c'est ce qui m'intéresse, et ça a du poids. Et ça crée mon identité, mon image de moi-même, c'est ce qui me donne une vision pour marcher, etc., etc. Et on va rebondir pour conclure sur le chapitre, mais également sur le livre de Proverbes. Là, je vous ai parlé de craindre l'Éternel. C'est la dernière chose un petit peu qui est dite quasiment sur cette femme. Et c'est finalement le fait qu'elle soit une femme vertueuse. C'est un essai peut-être de description de ce que peut être une femme qui craint l'Éternel, en fait. Mais les hommes aussi doivent craindre l'Éternel. Et on va aller rebondir en psaume 25 et on finira là-dessus et avec juste un petit verset en Colossiens 3:3. Donc je vais être très rapide, je vais peut-être même être plus rapide que prévu, c'est pas grave. Juste au psaume 25, il y a deux, trois choses que je voulais voir avec vous. Il est dit. Je vais lire un peu vite et m'arrêter sur quelques versets. Donc, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Donc, là, on vient un peu à nouveau sur le sujet qu'on a vu précédemment. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Juste une réflexion que j'avais sur ce verset-là, tu es le Dieu de mon salut. En fait, tu es le seul qui peut me sauver. C'est ça que ça veut dire. Tu es le Dieu de mon salut, c'est pas juste, j'ai de mon salut éternel, un jour tu m'as sauvé. Le seul qui peut me sauver de moi-même, de mes situations, de l'avenir, tout, c'est toi. Tu es le seul Dieu de mon salut, en fait. On continue. Verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Une chose qui est intéressante dans tout ce que j'ai lu là, je vais encore lire deux bricoles et voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le psalmiste qui est David? En fait, il parle de sa marche avec Dieu. Et en fait, dans sa marche avec Dieu, tout est en rapport avec Dieu. À aucun moment, c'est en rapport avec j'ai fait suffisamment, j'ai été suffisamment correct. J'ai assez obéi, j'ai bien parlé, j'ai bien pensé. Non, non, à aucun moment il y a ça. Il y a au contraire la reconnaissance que je suis petit, il n'y a que toi qui peux me sauver. La reconnaissance que, en fait, je suis perdu et j'ai commis des péchés dans le passé et j'ai commis encore des transgressions aujourd'hui. Mais je fais appel à qui est Dieu, je fais appel aux bontés de Dieu, je fais appel au pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu est. Et en fait, je me noie là-dedans. Moi, je me noie là-dedans. Je vais vous le dire autrement parce que, en fait, en Colossiens 3:3, on le lira pour conclure. Je vais me cacher là-dedans. Le croyant qui est celui qui craint l'Éternel, il a besoin de se cacher dans les vertus de Dieu pour sa marche quotidienne. Donc, on pourrait avoir l'impression qu'il est faux. Il commet des péchés, il se trompe, il fait mal et tout. Oui, mais il se met derrière un bouclier qui est Dieu. Parce que Dieu est bon, je me mets derrière, je suis à l'abri. Oui, mais toi, tu as fait du mal. Et tu n'es pas en train de traiter ton mal. Tu n'es pas en train de régler ton problème. Mais en fait, la manière de régler le problème, c'est avant tout de se réfugier derrière le bouclier de Dieu. De se cacher en Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est une vérité spirituelle et éternelle. Je suis caché en Christ. Je vais continuer un tout petit peu. Juste d'abord au verset 10, Darby traduit différemment. Ici, il dit, tous les sentiers d'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et Darby, et puis il y a aussi une autre version qui dit, autrement qui dit, les sentiers sont gratuité et vérité. Gratuité et vérité. Donc, quand il est parlé de fidélité, souvent, c'est le même mot qui parle aussi de vérité. Mais quand il est parlé de miséricorde, de grâce, de bonté, c'est le même mot qui parle aussi de gratuité. Et je pense qu'on a besoin de venir gratuitement devant Dieu, de se cacher en Christ gratuitement. Vous savez, si ma manière de penser est autre chose que la gratuité, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas la bonté de Dieu et ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est qu'au minimum, j'y ai rajouté quelque chose. La gratuité est importante. Et on avance un tout petit peu. Il est dit, chose juste intéressante, à chaque fois, là et à d'autres endroits, il fait appel au fait de garder l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est un contrat. Et vous savez quoi? Le contrat nouveau, la nouvelle alliance, le contrat dans lequel nous sommes avec Dieu, c'est un contrat qui est scellé par Dieu et que Dieu est le seul à tenir l'engagement. C'est pas nous. Donc, je m'attache au fait que c'est lui qui s'est engagé. Je ne peux pas m'attacher sur le fait que moi, je vais m'améliorer ou rectifier quelque chose. J'ai peut-être des décisions, des choses à faire, mais ma pensée, ma confession doit s'appuyer sur ce que Dieu a fait, a proposé et a présenté. Et on va juste aller un tout petit peu plus loin, verset 14. Enfin, on continue. Donc, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Tout comme il est dit, qui trouvera une femme vertueuse? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc ça veut dire déjà une chose, c'est que quand je suis dans une attitude correcte vis-à-vis de Dieu, lui va me montrer le chemin. Donc peut-être que des fois, quand je ne sais pas quel est mon chemin, c'est que je ne suis peut-être pas dans une bonne attitude avec Dieu. Et ce que j'ai à rectifier, c'est l'attitude vis-à-vis de Dieu. C'est peut-être pas ce que je fais. Voyez? Et la dernière chose qui est très jolie, donc son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Et là, c'est ma conclusion. L'amitié de l'Éternel, ailleurs, il est traduit d'autres choses. Il est dit, où je l'ai mis, où je l'ai mis. Donc ailleurs, oui, pardon, l'amitié. Il est parlé de le secret de l'Éternel à certains endroits. À un endroit, il est même parlé de. Alors, c'est peut-être moi qui le paraphrase un peu mal, presque de cachotterie, en fait. En fait, ça parle de quoi? L'amitié de l'Éternel, c'est l'intimité avec Dieu, le fait que nous sommes un intime de Dieu. Et donc, nous sommes dans ses secrets. Et donc, Dieu nous parle. Et donc, donc celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui a cette amitié, cette proximité avec Dieu. Et résultat, l'alliance, les choses que Dieu a fait, auxquelles ils se sont engagés, ça lui donne instruction. Et je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Comment je vais sortir mes pieds du piège? Eh bien, en regardant constamment l'Éternel et constamment le contrat auquel il s'est engagé vis-à-vis de moi, en fait. Ce contrat de gratuité et de bonté. Et donc, je vous lis juste le dernier verset pour conclure. C'est Colossiens 3:3. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on va juste le dire parce que quelque part, ça peut faire une forme de résumé, peut-être, de l'essence de ce que doit être la motivation du croyant qui est décrit dans les Proverbes. En Colossiens 3:3, si je le trouve, peut-être qu'il n'est pas dans la Bible, je ne sais pas, si il est là. Colossiens 3:3, il est dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes mort. Donc c'est vrai, il y a un préambule. Vous êtes mort, c'est un fait. Mais moi, je suis en train de voir un mort qui est en permanence vivant. Eh bien, on considère le fait que tu es mort et que ta vie, elle est cachée en Christ. Elle est cachée avec Christ, pardon, en Dieu. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Et l'espérance qui nous est donnée, verset 4, car quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La réalité de ma vie, ce n'est pas ce que je vois. Elle est en Christ et elle est cachée. Et elle est selon les vertus de Christ. Et ça, C'est craindre l'Éternel, c'est être la femme vertueuse, c'est être le roi qui écoute les bons conseils. Et c'est, je dirais, ma conclusion du livre des Proverbes. Amen.